À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.
Voilà, bonjour Laurent, bonjour Serge, qu'on nous présentera tout à l'heure.
Bonjour.
Alors l'actualité, mais pour aujourd'hui on va faire local, on va parler de l'actualité locale liée d'ailleurs à notre association INIS. Tout d'abord, je souhaitais vous parler du 10e cahier. Vous savez qu'on publie à l'intérieur d'INIS différents cahiers relatifs à l'Italie, que ce soit l'Italie géographique, historique ou l'histoire de la chanson. Donc, le cahier numéro 10 sera le deuxième volume consacré à la chanson en Italie et qui porte sur la chanson de Naples et de sa région. Donc, ce numéro 10 vient de paraître. Vous pouvez vous adresser à INIS, 04 74 93 41 28 ou inis@alisadsl.fr pour l'obtenir. On peut vous l'envoyer par courrier. Et sinon, vous pouvez le trouver aussi en vente à la librairie Majolir. Voilà pour la publication. Maintenant, on va aussi parler de la semaine de la femme vue par INIS. Donc, nous organisons différentes manifestations. La première aura lieu à la librairie Majolir le samedi 2 mars à 14h30. On y parlera de la situation de la femme en Italie et du mouvement féministe. Ça pourrait être étendu à des questions aussi françaises pouvant se recouper avec cette situation de la femme en Italie. Et cette manifestation est organisée par INIS et la librairie Majolir. Et l'animation sera faite par Anna Picard-Mazzi et par Jean Guichard, le président de notre association. Donc je rappelle, samedi 2 mars, 14h30. Je voulais vous parler aussi d'une deuxième manifestation en bout de semaine, celle-là, qui est le concert qui se déroulera le samedi 9 mars à 20h. Je répète, samedi 9 mars à 20h, à la salle du conseil de la maison du conseil général, appelée aussi quelquefois salle de la maison du département, qui est au fond du parc des Lilates, 18 rue Frédéric Dard. Et toujours dans cet esprit de la semaine de la femme, nous avons invité deux jeunes auteurs, compositeurs, interprètes, l'une qui est française, Céline Pruvot, et l'autre italienne, Erika Boschiero. Céline est parisienne, elle a vécu et étudié un moment à Lyon. Elle est agrégée de langue italienne, elle a une formation musicale, elle fait plusieurs festivals maintenant en tant que chanteuse dans plusieurs pays, et notamment elle aime beaucoup aller au Québec, où elle se produit souvent, et où elle vient d'ailleurs d'enregistrer son deuxième album. Et Erika Boschiero est née dans les Dolomites, elle vit dans la région de Venise, Trévise, exactement à Casale sul Sile. Elle aussi est auteure, compositeur, interprète, elle aussi a fait de brillantes études en sociologie. Elle chante très souvent à l'étranger, elle est passée en Allemagne, en Norvège. Elle a aussi fait partie d'un collectif qui diffuse de la chanson italienne en direct, bien sûr, c'est-à-dire en concert dans des universités européennes, dans de nombreuses universités. Et parallèlement, elle travaille aussi dans le monde scolaire, puisqu'elle fait de la chanson un outil pédagogique. Voilà, Erika Boschiero, qui, comme Céline d'ailleurs, participe aussi à certains festivals. Elle a aussi primée dans de nombreux festivals, notamment le dernier en date de 2012 sur la jeune chanson d'auteur en Italie. Voilà, alors venez nombreux parce que franchement, ça vaut le coup de voir ces deux jeunes filles qui portent haut la chanson de leur pays respectif. Et si on peut louer par avance, réserver par avance, parce qu'on risque d'avoir du monde, donc vous pouvez appeler au 07 86 62 29 77. Je répète, 07 86 62 29 77. Puisqu'on est sur la musique, on va y rester, on va écouter un premier morceau. Un morceau d'un groupe du Piémont qui s'appelle Marlevar, qui fait partie d'une association Comboscuro. Et Marlevar a cette particularité en tant que groupe piémontais. Vous savez que le Piémont parle italien, évidemment, parle occitan, parle piémontais, et a aussi des chants en langue provençale. Et donc on va les écouter dans Stella di Venere, l'étoile de Vénus, mais non pas interprété en italien, pardon, mais en dialecte. Et pourquoi ce groupe du Piémont? Parce qu'on va, toute notre émission, on va beaucoup tourner autour du Piémont, et notre invité va vous en donner des aspects pas toujours obligatoirement connus. Donc ce groupe Marlevar, on va entendre la voix de Luisa Cotifoglie, et puis Marco Ficara, Luca Lievi, Eduardo Belotti, Roberto Chiriaco et Davi Arneodo, qui est l'un des fondateurs du groupe, que l'on entendra d'ailleurs lui aussi à la voix et à l'accordéon. Le groupe Marlevar, Stella di Venere. Voilà, Marlevard et la voix de Louise Cotifoli. Peux-tu voir, maman, là au-dessus, la belle étoile qui passe derrière la montagne noire? Oui, mon enfant, cette étoile, c'est l'étoile de Vénus. Elle est blonde, elle a les cheveux blonds et s'est habillée d'une chemise d'or. Peux-tu voir, maman, c'est une étoile, etc., etc. Et Louise Cotifoli, qui a une formation classique, d'ailleurs, on l'entend dans cette expression vocale, d'un chant qui finalement est en plusieurs langues. Et Serge Chambon a déjà participé à nos émissions, puisque dans le passé, il est venu quelquefois nous accompagner dans cette émission à l'écoute de l'Italie. Et Serge, d'ailleurs, c'est lui qui nous a amené cet album, puisqu'il a rencontré le papa de David et David.
Sergio.
Sergio et David lui-même, non?
Oui.
Tu les as rencontrés et vous avez beaucoup parlé de musique, mais aussi de beaucoup d'autres choses.
On a fait une interview.
Donc tu as fait une interview de David qui t'a dit que qu'il veut bien l'inviter en France, il refuse pas visiblement. Mmh. Alors tu peux nous dire où sont ces gens-là
sont dans la région de Cuneo, dans une de ces magnifiques vallées, c'est qui est le Val Grana. Il y a trois petites vallées parallèles, Valstura, Val Grana, Val Maira, et ils sont dans un tout petit hameau qui s'appelle non pas Santa Lucia, mais comme c'est en provençal, Santa Lucia.
Voilà, parce que ce sont ces fameuses vallées occitanes et où il y a l'occitan et un des dérivés, c'est-à-dire le provençal. Absolument. Donc, Serge va nous parler de musique un petit peu, mais va beaucoup nous parler d'alimentation, on va dire. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il a ramené d'exposants italiens du Salon Primevert, dont il vous parlera aussi.
Des agriculteurs.
Des agriculteurs. Des billets d'entrée gratuits à ce salon qui aura lieu les 8, 9 et 10 mars à Eurexpo. Lyon-Chassieux, donc. Salon Primevert. Si vous souhaitez obtenir ces billets d'entrée que l'on vous offre, encore une fois, de façon tout à fait amicale, vous pouvez vous adresser, téléphoner au 04 74 27 97 12. Je répète, 04 74 27 97 12. Vous dites simplement que vous appelez pour retirer des billets d'entrée au salon rencontre de l'Alter Écologie du 8-9-10 mars, salon dit Primevert à Eurexpo Lyon. Alors, Serge, Salon Primevert, ça nous amène tout droit, et notamment ces agriculteurs en question.
Exactement.
À ton sujet du jour.
Alors, c'est trois agriculteurs que je connais pour les avoir rencontrés en Italie, qui font des agriculteurs bio, qui font Primevert. Il y a un producteur de fromage bio qui est de la région de Crémone. Il y a un viticulteur qui est de la région de Tortona, c'est entre Turin et Piacenza, pas loin de l'autoroute.
Tortona qui est célèbre aussi pour un coureur cycliste.
Oui, c'est le pays de Faustocopi, voilà. Le pays natif de Faustocopi. Ennio Ferretti, c'est son nom, habite à 2 km de la Correzzana, le village où est né Faustocopi.
Alors, ce que voudrait-il dire que Faustocopi...
Il marchait au pinard, je crois qu'il avait plus que du pinard. Ensuite, le troisième agriculteur, c'est une agricultrice, s'appelle Raffaella Firpo, qui est l'exploitation, c'est la Cascina Piola, et qui est dans la région de Turin, une soixantaine de kilomètres à l'est de Turin, et qui fait du poivron. Donc, dans cette émission et dans la suivante, on va vous parler de Slow Food. Et Slow Food est une association piémontaise, à l'origine, qui a pour objet l'alimentation. Et ces trois agriculteurs sont adhérents de Slow Food. Donc la première émission, donc celle d'aujourd'hui, si on devait lui donner un titre, j'aurais dit « Manger est un acte politique ». Soit on mange des lasagnes, soit on mange du navet de Flacher qui est produit pas loin d'ici. Quelques questions autour de l'acte de manger. Qu'est-ce que l'on mange ? Soit des produits bruts que l'on transforme nous-mêmes, soit des produits, des plats cuisinés. Alors, les extrémistes pourraient dire que déjà le yaourt qu'on achète est un plat cuisiné, sans aller jusque-là. on peut penser que quand on cuisine soi-même, on sait d'où viennent les produits et on sait ce qu'il y a dedans. Généralement, quand on cuisine, on met assez peu de conservateurs, assez peu de gaz pour conserver les aliments et assez peu de produits chimiques. Ensuite, deuxième question sur l'acte de manger, d'où viennent les produits que l'on mange ? Alors, on peut s'amuser à calculer la distance moyenne parcourue par nos aliments. On peut prendre comme exemple la pomme qui vient du Chili, les tomates qui sont produites au Maroc et consommées en Suède, ou un exemple plus récent de la viande de cheval qui s'est déguisée en bœuf et qui est...
Oui, mais c'est pendant la période de carnaval.
Oui, c'est le carnaval, oui. Ben, elle est peut-être passée par Venise, parce que pour venir de Roumanie en Hollande, ensuite, tout ça en frigo, hein, elle est descendue dans les Pyrénées-Orientales et elle est remontée au Luxembourg pour être livrée en Angleterre.
Moi, j'avais vu, alors là, ça avait moins de conséquences parce que ce n'était pas l'alimentation, mais j'avais vu quand même un cas assez extraordinaire d'un vendeur d'huile essentielle, au prétendu tel, qui était en Provence, hein, et qui vendait de l'huile essentielle qui venait de Hollande, et qui vendait de l'huile essentielle à base de lavande. C'est évident que la Hollande est un grand pays producteur de lavande. Ce sont des circuits complètement dingues, et c'est effectivement désolant, mais dans l'alimentation, ça l'est c'est encore courant. Plus, évidemment.
Troisième question,
et courant, malheureusement.
Troisième question autour de l'alimentation, c'est les aliments les meilleurs sont-ils les plus chers ? Et plus chers par rapport à quoi ? Et une interrogation, quelle est la part de notre budget que l'on consacre à l'alimentation ? Et quand on achète des produits, est-ce qu'on achète de quoi manger ou de l'emballage ou des frais de marketing ? Toutes ces questions, Slow Food s'est les est posées depuis 1986. Mmh. Leurs réponses ont des conséquences connues sur la santé, donc positive ou négative, selon qu'on choisit la lasagne ou le navet de Flacher.
Alors, il y a lasagne et lasagne, là aussi.
Exactement, mais je parlais des lasagnes dont on parle actuellement.
Hein. Ouais. Bien précisé.
Et conséquences sur la santé, mais aussi conséquences sur l'exploitation des hommes, des femmes et des enfants qui travaillent dans les pays du tiers-monde, des fois, ou dans les pays de l'Europe centrale. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons... rencontrer les gens de Slow Food à Abra.
Sur place, donc.
Sur place. Alors, Slow Food est une association qui a été créée en 1986, donc ça ne date pas d'hier, qui est reconnue par la FAO. Son siège, donc, est à Abra, c'est à 60 km au sud-est de Turin. Elle a une centaine de milliers d'adhérents dans le monde, 2000 en France, 35 000 en Italie, et est présente dans une centaine de pays. L'objet à l'origine, qui est toujours là mais qui a un peu évolué, c'est défendre le bon goût des aliments en intervenant sur la production et la diffusion, mais sans le faire elle-même. C'est-à-dire qu'en mettant en relief les bonnes pratiques, en les montrant aux parties prenantes, c'est-à-dire les producteurs, mais aussi les consommateurs. Donc on va entendre déjà Paola Nano, elle va nous dire si elle est d'accord avec la description que je vous ai faite.
Juste une petite précision, fondation par Carlo Petrini, après on en reparlera.
On reparlera après de Carlo
et
Petrini.
Et réaction à tout à fait ce que tu as dit en prenant les ASEAN actuels, comme tu le disais, réaction au monde de la consommation restauration rapide, quoi, ce qui explique le logo dont on parlera
voilà.
Aussi.
Voilà.
Alors, est-ce que cette présentation est à peu près fidèle ?
Oui, je crois que c'est fidèle. Disons que Slow Food est une association qui a eu son début en Italie, correctement, vous l'avez dit, en 1986. Mais très tôt, en 1989, a été, exporté aussi au niveau international parce que c'est dans cette année-là qu'elle a été le nom qui était avant Arcigola en italien a été changé en Slow Food justement pour avoir une envergure internationale. Et le congrès de fondation de Slow Food a été fait à Paris, à l'Opéra Comique. C'est vrai que c'est une association, Slow Food, et qui a à peu près 5 000 membres dans plusieurs pays du monde maintenant. Notre réseau de présence de Slow Food est dans 150 pays du monde. Donc, ce que je voulais dire, c'est que justement pour cette ampleur, nous sommes une association, mais nous sommes aussi un réseau. J'aime mieux utiliser le mot organisation. Parce que beaucoup de choses ont changé depuis 1989 et aussi dans notre travail, dans notre mission, dans notre philosophie. Donc, c'est pas seulement la revendication, c'est ça on dit,
oui, revendication
d'un plaisir, de la nourriture.
Paola nous a expliqué le changement d'orientation dans Slow Food au bout de 3 ans, c'est-à-dire qu'ils ont gardé leur objet primitif et ils ont largement élargi ensuite leur rayon d'action. Alors Slow Food a été créé par Carlo Petrini, c'est quelqu'un qui a actuellement 63 ans, qui est né à Bra, il a une formation en sociologie. Il a été journaliste dans plusieurs journaux engagés à gauche. Il a fait 2 livres, un dont le titre est éloquent, « Bon, propre et juste, manifeste pour le goût et la biodiversité » en 2005, et un autre qui s'appelle « Terra Madre ». Et donc ce livre évoque ce que Paola Nanno expliquait dans les activités liées à leur aspect ONG de Slow Food.
Terra Madre, qui est le nom aussi effectivement d'une réunion.
Voilà. Donc Paola Nanno va nous parler de Carlo Petrini.
Slow Food a été voulu et fondé par Carlo Petrini. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement 2 mots sur Carlo Petrini ?
Carlo Petrini, tout d'abord, il est né à Bra, donc c'est pour ça, c'est ça la raison principale par laquelle Slow Food reste à Bra et il a ici son siège international. C'est un homme qui a fait des études en sociologie, qui était très engagé dans l'activisme aussi politique dans les années 60 et 70. C'est un intellectuel qui très tôt a commencé à collaborer avec des quotidiens, tout d'abord avec le Manifesto, l'Unità, puis avec La Stampa, et maintenant il est éditorialiste pour le quotidien La Repubblica, ici en Italie. Mais disons que sa vie est très très strictement lié avec la fondation de Slow Food et toutes les activités de cette organisation qu'il continue à inspirer et à gérer aussi. Il a été aussi le fondateur de l'Université de sciences gastronomiques, qui est une réalité très importante et très innovative, parce que c'est une université qu'il n'y avait pas dans le monde avant. C'était cette idée de conjuguer les aspects scientifiques et humanistiques des études de l'alimentation.
Voilà donc le fondateur de Slow Food, de Carlo Petrini. Alors, les missions de Slow Food. La mission première, c'est valoriser les produits alimentaires autochtones et vendus hors circuits commerciaux modernes. Tout ça en luttant contre le fast-food. Il ne s'agit pas de lutter contre les fast-food, mais contre
l'idée
du fast-food, mmh. C'est-à-dire ne pas accorder de temps ni de réflexion à l'alimentation. Et donc pour cela, c'est Slow Food milite pour utiliser des produits de base assez simple, sans contrairement à la grande distribution qui vend des produits avec tout un tas d'éléments rajoutés, bien souvent au détriment des qualités gustatives ou culturelles. J'insiste sur le côté qualité culturelle des aliments. Et grande distribution qui vise aussi à éliminer les produits hors normes. Alors ce qu'on appelle un produit hors normes, c'est ça va être la carotte qui est toute tordue. Et puis, un produit hors norme peut être un produit qui n'est pas produit en quantité assez grande pour alimenter tous les hypermarchés de France.
L'idée de réagir justement à l'idée de fast-food, et d'où Slow Food bien sûr, se retrouve dans le logo. De toute
façon. Exactement, le logo c'est un petit escargot.
Qui prend son temps.
Qui prend son temps. Voilà. Alors donc, on va traiter, après la chanson qu'on va écouter, on va parler de deux manifestations, deux actions de Slow Food, le Salon du Goût et puis les Sentinelles du Goût. Et pour ça, on a été rencontrer aussi une productrice, une agricultrice qui est Raffaella Firpo.
Alors une chanson, mais puisque tu parlais de Kou Néo tout à l'heure, on va écouter un chanteur de Kou Néo, ça me paraît logique. Il est connu, c'est Gian Maria Testa, on l'a passé assez souvent ici, mais on le passe toujours avec grand plaisir. Gian Maria Testa a fait au départ, il voulait se consacrer à des études d'avocat, et puis comme il sort justement d'une famille d'agriculteurs, il n'avait pas trop les moyens de continuer des études longues, donc il a passé des concours dans l'administration, il voulait être avocat pour rétablir la justice, si on ose dire. Et il a passé des concours, notamment dans l'équivalent de la SNCF en Italie. Et il a obtenu ce concours. Il a été chef de gare pendant longtemps à Kuhn. Et même d'ailleurs, au début où il était chanteur, il chantait, il adaptait des chansons de compositeurs italiens ou français, puisqu'il n'est pas loin de la frontière. Hein, il adaptait Brassens et autres. Il parle d'ailleurs excellemment bien français, mais il chante toujours en italien. Et bien, il a composé en italien pour la plupart de ses morceaux, mais aussi en dialecte. On va écouter un morceau en dialecte piémontais, sachant aussi qu'il s'accompagne souvent de musiciens de jazz, notamment, et autres, puisqu'il a aussi travaillé sur Léo Ferré, sur beaucoup de choses. Enfin, voilà. Donc, Gian Maria Testa, La maison sur la colline. Elle est belle, la maison sur la colline. Maria la regarde et me dit, je ne pourrai jamais la voir. Pour les pauvres, il n'y a pas de paradis, donc en piémontais, la Casla Colline.
La Casla Colline, elle est belle. Maria Lavarde, Pendise. En piaserie à Poudaï Catella. Seria el meu paradís. Em piaceria poder catela. Seria el meu paradís. Le bianca, la casa, la colina. Le bianca come Ninsel, se la vardis mia cagrigna, le propi la ca che vel, se la vardis mia cagrigna, le propi la ca che vel. Propi la ca che vel, le propi la ca che vel. Le grossa la gas la culina, tante stanze con finestre e pugei. Stariu propi bin l'ansima, mi me amo
e i miei fiei. Stariu proprio ben là in cima, mi me om e i miei fiei. Mi pare fazia un'ora d'ora, le morte ancora sporche e causina, la fa la chiella ca slaculina, la fa la per quattro signor, la fa la chiella ca slaculina, la fa la per quattro signor. Sta, sta mac due mesi per van via, la tengo mac basta casia, e mi son senza ca, la tengo mac basta casia, mi son senza ca, mi son senza ca, e mi son senza ca. Vacanza la culinga alle bella, Maria la varda peu dis, mi potrei mai catela per i poveri ienen al paradiso, mi potrei mai catela per i poveri ienen. Il paradiso.
Voilà Gian Maria Testa.
Alors parmi toutes les actions de Slow Food, on ne peut pas parler de tout parce qu'ils font énormément de choses. Ils sont entre autres éditeurs de livres. J'ai choisi de parler de deux manifestations, le Salon du Goût et les Sentinelles du Goût. Alors le Salon du Goût a lieu à Turin tous les deux ans, les années paires. Il a lieu au Lingotto fin octobre et j'y suis allé une fois. L'entrée est un peu chère. Toujours des relations un peu difficiles entre Slow Food et l'argent, vu de l'extérieur. L'entrée était un peu chère, c'est 20 euros. Mais si on y reste la journée...
Mais il n'est pas réservé qu'aux professionnels ?
Non.
D'accord.
Non. Si on y reste la journée, bon, si on compare une place de cinéma, ça fait pas cher de l'heure.
Non, parce qu'il n'y a pas vu ce qu'on peut
voilà.
y faire. Quoi.
Hein. Donc il n'y a que des bonnes choses à voir. Et surtout, il y a de bons producteurs à voir. C'est-à-dire que le Salon du Goût sert de vitrine aux petits producteurs. Donc on peut, j'ai rencontré moi des producteurs d'un fromage d'Italie dans la région de Sondrio, dans le nord. Le fromage s'appelle le Bitto. C'est produit dans une vallée et ils sont quatre. C'est un peu comme le Termignon. Quoi,
mais dis-moi, tu disais, il y a autre chose à voir et pas seulement qu'à voir. Hein. Il y a des choses à déguster.
Il y a à déguster et il y a aussi, c'est un peu comme Primevère, il y a tout un environnement de conférences. Alors, en alternance avec le Salon du Goût, les années impaires, donc cette année, à Bra, il y a le Salon Cheese. Donc, c'est un salon sur les fromages où il y a les fromages du monde entier. Alors ça, je ne connais pas encore, mais je pense
il que... Il est, paraît-il, extraordinaire.
Je pense qu'au mois d'octobre,
on me l'avait conseillé. Et il a lieu, lui aussi, en octobre.
Hein. En octobre, à Bra. Et alors, c'est des petits stands qui sont dans toute la ville de Bra.
Ah ouais, d'accord.
Donc, Paola va nous parler du Salon du Goût et des Sentinelles du Goût.
Alors, je suis allé une fois moi, au Salon du Goût à Turin. J'ai eu l'impression, mais c'est qu'une impression, que les exposants étaient en majorité des agriculteurs. Donc j'ai compris que Slow Food donne son agrément à des agriculteurs. Est-ce que Slow Food donne aussi son agrément à des entreprises de transformation? De manière, par exemple, si je prends un exemple local à Alba, Il y a un fabricant de pâtes à tartiner qui met beaucoup d'huile à Ferrero.
Ah, d'accord.
Qui met beaucoup d'huile de palme dans ses, dans ses produits. Est-ce que Slow Food intervient aussi sur les transformateurs? C'est jouer à l'action sur les producteurs.
Non, non. Il y a l'action sur les producteurs. Les producteurs, c'est pas seulement. On peut.
C'est, nous les producteurs, c'est pas que les agriculteurs.
C'est pas que les agriculteurs. Et d'autant plus que, par exemple, avec les Sentinelles, nous avons beaucoup de projets qui aident et qui sont là pour promouvoir et pour essayer de sauver de la disparition, pas seulement de les sentinelles du goût, mais pas seulement des produits agricoles, des matières premières, mais c'est aussi des produits transformés. D'accord. C'est-à-dire comme des saucisses ou des fromages, ce sont des produits transformés. Évidemment, c'est important pour nous, c'est que ce soit des. En principe, le Salon du Goût, c'est une exposition, comme je disais, surtout de petits producteurs, parce que ils n'ont pas. C'est eux qui sont en difficulté.
D'accord.
Par la situation du système agroalimentaire actuel. Mais nous n'avons pas de problème à nous confronter aussi avec l'industrie alimentaire. Évidemment, ils n'ont pas besoin de nous pour vendre ou
non, pour
autre
voir,
chose.
Non, mais peut-être pour améliorer leurs produits.
Pour améliorer, oui, peut-être. Mais nous sommes à disposition. Surtout, ça, c'est l'université de sciences gastronomiques qui peut probablement être un instrument aussi qui peut aider.
Voilà, donc le Salon du Goût, c'est un salon dans lequel bon, les particuliers professionnels peuvent aller, mais Paola l'a dit, c'est une tribune pour les petits producteurs. Ils n'ont pas les gondoles des grandes surfaces, mais ils ont le Salon du Goût. Alors, Paola Nano a parlé de l'Université du Goût, on en parlera le mois prochain. Alors, elle a parlé des Sentinelles du Goût aussi. Alors, les Sentinelles du Goût, c'est des actions qui sont menées pour éviter que ne disparaissent des légumes, des races ou des plats. Donc, ce n'est pas que des produits agricoles, ça peut être des plats transformés. Et on a rencontré une Sentinelle du Goût qui est entre Turin et Asti, à Capriglio. Et c'est Raphaël Firpo qui expose à Primevert. Et si vous allez la voir en demandant à l'accueil où est leur stand, vous pourrez déguster ses produits.
C'est elle qui était venue déjà.
C'est elle qui est déjà venue.
Excellent ce qu'elle fait. Ouais.
Et d'abord, Raphaël va nous présenter son exploitation.
Nous sommes ici à la Cascina Piola avec Raphaël Firpo. C'est une exploitation agricole bio qui produit, entre autres, un poivron assez particulier. Alors, Raphaël, est-ce que tu peux nous décrire rapidement l'exploitation, en quelques mots?
L'exploitation, c'est très petit. On cultive beaucoup de différentes qualités de légumes, surtout légumes de l'été. Parce que nous, on a un petit atelier de transformation et on travaille tout de suite les légumes qu'on ramasse chaque jour pour faire des compotes, des légumes à l'huile, des antipasti.
Sont stérilisés.
Oui, sont tous stérilisés et notre travail, c'est de la graine à la plante.
De la graine au produit fini.
Oui.
Très bien. Et dans cette production, il y a le poivron de Capriglio.
Oui.
Quelle est l'histoire du poivron de Capriglio? Poivron.
Oui, c'est un poivron. L'histoire, c'est une histoire un peu longue. C'est déjà connu depuis 150 années. et était toujours cultivé ici, et les graines sont toujours passées dans une famille à l'autre, dans le parent, au fils,
de génération en génération.
Et la qualité du poivron, c'est particulier parce que c'est un poivron très petit, c'est gros, à peu près comme
un œuf,
un peu plus grand qu'un œuf, mais entre l'œuf et la tomate.
D'accord.
Et c'est très épais et très doux, très facile à digérer. Et pour ça, ça a été très connu jusqu'à les années 60.
Alors, est-ce que la production s'est arrêtée dans les années 60?
Non, pas arrêtée, parce que les familles du village, ils ont toujours continué à maintenir pour la famille même, pour le cultiver pour soi-même, aussi s'il n'y avait plus le marché pour la vente au public.
D'accord.
Parce que dans les années 60, sont arrivés tous les gros qualités, les poivrons, si, si, avec deux poivrons, tu fais un kilo. Et ici, pour faire un kilo, il faut 12, 13 poivrons. D'accord. Alors, c'est très différent la situation. Alors, c'est vrai que le premier moment, ils ont les gros poivrons. Ils ont
pris le marché.
Pris le marché, et après, dans les années, et l'autre, il est un peu retourné, non? Parce que la qualité, c'est différent.
Petit à petit, donc, le poivron de Caprileo a repris sa place.
Pas encore, mais bon, c'est vrai que c'est un produit, il a été déjà, depuis les années 80, un produit protégé de la région Piémonte, et il y a 7 années, on a commencé tout le travail avec Slow Food.
Donc Raphaël évoque le travail avec Slow Food. Donc Raphaël est une sentinelle du goût. Donc il y avait un petit poivron dans la région de Turin qui a quasiment tombé en désuétude face au poivron d'Espagne. Et avec Slow Food, elle est accompagnée avec un groupe d'agriculteurs et de non-agriculteurs pour remonter cette variété. Alors Slow Food a une attitude de conseil technique et puis aussi une aide pour la vente de ces produits, puisqu'il y a un agrément, quoi. Le poivron, quand elle fait les marchés, elle peut dire que le poivron est agréé.
Une sorte de label, quoi.
C'est une sorte de label, oui. De même que le fromage de la Gauscourt, là, qui est à prime vert, il y a un label Slow Food. Raphaël va nous développer un peu plus le travail qui a été fait par les agriculteurs de Capriglio.
Alors, quel est le rôle de Slow Food dans le maintien de cette variété?
Slow Food est un projet qui s'appelle Produits Sentinelles de Slow Food. Ils sont presque 170 produits en Italie et 300 et quelque chose dans le monde. Et le projet, c'est de sauvegarder les petites productions de qualité, soit végétaux, soit animaux.
D'accord.
Très lié à la tradition locale. Et pour ça, important pour la gens du village.
Alors là, concrètement, que fait Slow Food à part vouloir...
Alors, Slow Food nous aidait parce qu'elle a envoyé une technicienne qui nous aidait pour reconnaître bien entre une dizaine de producteurs qu'il y avait.
D'accord.
Au village.
Donc il y a une sélection.
La personne qui avait les poivrons meilleurs pour la qualité, pour la forme.
D'accord.
Et après ça, il a expliqué beaucoup à les autres, parce que c'est vrai aussi que des paysans sont aussi des têtes très dures. Et alors chacun, il pense d'avoir
le meilleur.
Le meilleur, qu'est-ce que c'est vrai, je sais qu'il faut faire comme ça, ou le poivron, il est comme ça, et peut-être que ce soit pas vrai, mais oui. Bon, ça c'est... Et alors, c'était aussi un travail d'explication à les autres, de former. Et là, moi aussi, je travaillais beaucoup pour faire une petite association, un petit groupe de personnes qui travaillent ensemble et pas
l'une
contre l'autre.
Voilà. Combien d'agriculteurs travaillent ensemble sur le poivron là?
On est très peu. On est 12 personnes, mais beaucoup sont retraités, sont très âgés. Il y a un jeune sérieux qui travaille bien, qui a commencé une ferme depuis 2-3 ans. Et alors là, on espère. Et après, nous et une autre ferme.
D'accord, donc ça repose.
Officiel. Et tous les autres sont personnes qui travaillent, qui les ont acceptés de faire le travail. Pas pour quelque chose d'économique, pour la vente, mais plutôt pour sauvegarder la tradition, pour faire quelque chose pour le village et tout ça.
Alors, je vais vous donner quelques exemples de produits qui sont en France.
Donc, oui, parce que puisque tu parlais de filiales françaises.
Voilà, il y a des filiales, des activités en France. Mmh. Il y a le fromage de Salers dans le Cantal, la lentille blonde de Saint-Flour, la vache bretonne à Pinoir et puis un vin dans le Roussillon. Donc voilà l'activité de Sentinelle du goût. Donc c'est une activité de prévention et que Slow Food développe. Mais avant de voir un dernier aspect de Slow Food, une chanson du Piémont.
Toujours ces fameuses vallées. Là, c'est de la vallée Saint-Martin. Et par un groupe qui s'appelle Lou Dalphin, qui est un groupe qui est parti sur la musique traditionnelle. Et la musique traditionnelle, ça ne doit pas être un musée poussiéreux, hein, ça doit évoluer, et eux la font évoluer intelligemment. Donc ce groupe, on va entendre un morceau qui s'appelle... Le texte est en occitan, mais c'est la vache qui mange, la vache mange. Alors il se réfère à une période de crise industrielle, ce qu'on ne connaît pas du tout actuellement.
Non, pas du tout. C'est une vache ou un cheval?
Alors, il fait référence à l'usine Michelin qui est très présente en Piémont, notamment dans la région de Fossane. On en avait parlé dans une précédente émission. Donc, l'usine Michelin souffre de la crise industrielle. Le chef m'appelle et puis il m'a dit « ça suffit maintenant avec les pneumatiques, maintenant tu es licencié ». Alors, en tant que licencié, il dit oui, mais bon, finalement, la vache mange et le cochon boit, il boit bien et moi, je suis allongé sur la paille, qu'est-ce que je suis bien. Et le veau saute près de sa mangeoire et puis il se mange tout le foin disponible et moi, je suis là sur la paille, et qu'est-ce que je me sens bien. Après, ça se corse un peu, mais après, il faut dire que quand ce qui concerne ma femme, eh ben, je l'ai trouvée avec Gino, le facteur. Et puis un autre jour, je l'ai trouvée avec un autre type, une espèce de brute qui fait peur, et ils m'ont tout pris, tous les meubles, tous les sous. Voilà Lou Dalfin, qui a pour emblème le dauphin d'ailleurs, et qui a pour fondateur ben, le chanteur, là, Sergio Berardo, qui est bien dynamique, bien énergique. Alors Serge, on continue.
Alors je parlais tout à l'heure de l'aspect culturel des aliments. Slow Food, c'est aussi un lieu de rencontre. Le grand lieu de rencontre, c'est Terra Madre, dont on parlera le mois prochain. Mais un lieu de rencontre aussi pour des agriculteurs piémontais.
Il y a d'ailleurs un film qui était basé là-dessus, sur Terra Madre.
Sur Terra Madre, je ne savais pas. Ouais. Donc d'abord, Mario va nous présenter son exploitation. Et ensuite, il nous dira ce que Slow Food lui apporte.
Alors, nous sommes au Finocchio Verde avec Mario et Isabelle. D'abord, Mario, pourquoi l'exploitation s'appelle le Finocchio Verde?
L'exploitation s'appelle Finocchio Verde parce que dans notre terroir, ils viennent des petites plantes qui s'appellent fenouilles et ils sont vertes.
Les fenouilles.
Fenouil sauvage.
D'accord. Déjà, là, on est ancré dans l'exploitation biologique. Alors.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que tu produis sur l'exploitation?
Je produis des fromages de brebis, des fromages de chèvres. Ça, c'est au début. Après, avec les ans, on a produit plusieurs des choses. C'est-à-dire, on a des jardins potagers. Potager, on a des fruitières, on a des abeilles, on fait du miel.
Et c'est un repas complet, quoi.
Oui, presque complet. Nous sommes presque autosuffisants jusqu'à 90%. On achète du sel, du sucre et du café.
Et ton lien avec Slow Food?
Et j'ai connu plusieurs de mecs qui sont des Slow Food, ils sont devenus des amis. Et on a connu mes fromages, on a apprécié beaucoup. Et on a cherché, moi, pour faire partie de cette grande famille.
La famille de Slow Food.
Oui.
Donc c'est un lien quasiment affectif.
Oui, ouais. Plutôt personnel plus que commercial.
D'accord. Et il y a eu des retombées des retombées sur l'exploitation, retombées économiques?
Oui, oui. Même si ce n'est pas la chose que j'ai cherchée comme première.
C'est plus alors idéologique, philosophique?
Philosophique.
Alors Mario est allé au Salon du Goût. Il va nous dire pourquoi. Et chez Mario, c'est là que l'INIS va faire
un stage d'immersion. Proposer des stages d'immersion. On l'écoute d'abord peut-être?
On va l'écouter. Donc Mario va nous parler de son intervention au Salon du Goût à Turin.
Alors, Slow Food a organisé récemment le Salon du Goût à Turin. Ça a lieu tous les 2 ans. Est-ce que tu y exposais? Est-ce que tu étais exposant au Salon du Goût?
Mais je suis allé au Salon du Goût seulement pour parler de ma expérience avec les volontaires, pas donc, pour vendre de fromage ou autre chose.
Pour parler avec des amis ou une conférence?
En conférence.
En conférence.
Oui. Une conférence qui parle des... Qu'est-ce qui se passe entre l'agriculture et le nouvel média, c'est-à-dire les computers.
Sans refaire la conférence, dis-nous un petit peu ton point de vue là-dessus.
Et c'est-à-dire que les moyens modernes, ils peuvent aider vraiment les agriculteurs à changer le point de vue entre sa vie. C'est-à-dire que les problèmes de nos ancêtres agriculteurs, c'est qu'ils restent plusieurs temps isolés dans sa ferme, seulement à parler avec son bête.
Parler des chèvres.
Parler des chèvres et des brebis. Avec les nouvelles médias, nous sommes en contact avec plusieurs de jeunes, plusieurs de monde, partout le monde.
D'accord. Donc, c'est la bonne utilisation de la technique.
Ouais.
Si la technique ultra-moderne ne rentre peut-être pas dans les tables, elle rentre dans le restant.
Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça.
D'accord. C'est une belle
point de vue.
Une belle analyse, oui. Oui, oui.
Donc Mario utilise l'ordinateur, non pas pour surveiller les cours du blé en temps réel, mais pour
communiquer avec d'autres.
Pour communiquer sur la façon de les pratiques agricoles avec d'autres agriculteurs.
Ça ressemble à ce que je disais sur la musique.
C'est un peu pareil. Ouais. Voilà ce qu'il y a à dire pour Slow Food. Pour
alors Mario, justement, au Finocchio Verde, Mario et Isabelle.
Isabelle.
Propose, et on est tout à fait d'accord à Ennis rentrer dans ce projet, nous propose de faire un stage d'immersion. Alors comment se déroule ce stage d'immersion? C'est entre avril et septembre, grosso modo, oui. Où il y a une partie aide, on va dire, voilà, aide, oui. Aide et un peu didactique sur comment faire du fromage,
français,
etc. Oui. Et donc en mettant la main à la pâte, oui. Sans jeu de mots. Et puis le soir, tout le monde se réunit autour de la
donc
table.
Donc déjà, on parlera que italien,
qu'italien
au moment,
voilà,
des, repas.
Au moment des repas, même s'ils parlent, on l'a vu, français. Pour avoir un bain linguistique en même voilà. temps qu'un bain lié à cette agriculture bien authentique. Et donc, cette aide, tout en suivant des cours, entre guillemets, au niveau de la fabrication, et puis d'apporter une aide, on a en contrepartie un bain linguistique, à la fois dans la discussion
dans la journée,
et puis une discussion ciblée voilà, sur la langue.
On a arrêté une heure de conversation,
sur
où
la
chacun
langue,
dira ce qu'il a fait dans la journée.
Et donc, l'idéal, ce serait de partir à 4 ou 5.
Voilà, je pense que la première voiture aura lieu fin avril.
Voilà, 4 ou 5. Et là, pareil, si vous voulez avoir des renseignements plus complets, soit vous vous adressez au 07 86 62 29 oui. 77, soit au 04 74 27 97 12, où vous exprimez vos souhaits, vous redemanderez du...
Voilà, même si vous n'êtes pas quatre pour faire une voiture, même tout seul, on fera une voiture après. Alors,
absolument.
Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas de date de fixer.
Non, c'est
j'ai
à
vu
la
avec
main.
Mario que c'est d'avril à septembre. Et
voilà.
Il nous prend...
Et dès qu'il y a quatre voilà. personnes
j'en parle
à
avec
qui
lui,
une date convient,
voilà.
en se mettant d'accord avec le groupe part. Voilà. Ouais. Et c'est une très bonne initiative parce que c'est une belle façon d'apprendre la langue et pas que la langue. Finalement.
Et il y a une très belle région, les langues.
Ah ben les langues, c'est magnifique. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, bonsoir. Et puis, au mois prochain, on continuera à parler de Slow Food et de ces belles vallées du Piémont.
À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.